Le monde au féminin, le monde au féminin, le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge avec vous. Alexandrine Lao, alias Alexa Léone, poétesse, dramaturge, conteuse, secrétaire générale de l'Association des écrivains centrafricains. Merci beaucoup d'être avec nous dans Le Monde au Féminin de VOA Afrique.
Bonjour Nathalie.
Dans un premier temps, pourriez-vous nous retracer votre parcours? Qu'est-ce qui vous a dirigé vers les arts et en particulier vers l'écriture, plus précisément la poésie?
Mon parcours scolaire a été un très grand succès et mon parcours universitaire devait être de même, mais j'ai tout laissé tomber pour des raisons personnelles. J'avais eu un bac technique, je me suis inscrite à l'université de Bangui en première année de lettres modernes où mon mari est rentré de France en tant que professeur vacataire, et il va être intégré dans la même année. Je me suis arrêtée en terminale après le bac, et voilà, nous y sommes. J'écris la poésie. Je suis arrivée comment? Et je me suis inspirée de nos différentes lettres. Quand j'étais en France, nous écrivions les lettres, et le 20 mars 1992, on avait lancé un concours de poésie. J'ai écrit « Douleur de la séparation » qui a été primé, et le prix m'a été remis par Feu Étienne Gouimide, qui fut ministre de l'Éducation nationale à cette époque, qui est littéraire aussi, qui a fait plein de choses pour le monde culturel centrafricain.
Pouvez-vous citer certains de vos recueils de poésie et nous les décrire?
J'ai toute une panoplie de poèmes, mais là, il y a 5 recueils qui sont déjà édités. Il y a Folklore National, Hymne à la femme, Innocence, Identité fugace et Errance inachevée. Dans Folklore National, j'aborde le problème de la quête d'un peuple pour la survie. Les décadences outrageuses liées aux effets des décennies de crise politico-militaire. Identité fugace aussi rejoint Folklore National. Ça retrace le parcours d'un peuple oublié sur ses propres terres, qui vagabonde, qui meurt éventré, gisant dans les mares de son sang à cause des diamants de la guerre. Et je me suis posé des questions dans Identité fugace. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Où est notre terre? Et c'est le silence qui répond. Nous avons tellement mal, et même le mal récuse nos mots. Et dans Innocence, j'aborde le problème des enfants soldats, des enfants maltraités, des enfants violés, des enfants sacrifiés sur les autels diaboliques. J'écris pour dénoncer, j'écris pour qu'il y ait un regard sur mon pays. J'aborde les problèmes d'une société en véritable turpitude. Une société toujours en crise, une société où les femmes sont en pleurs. Dans Hymne à la femme, j'aborde le réveil de la femme tournant le dos à son destin ficelé. Aujourd'hui, elle prend la parole pour dire non, pour dénoncer, pour refuser, pour se faire comprendre, pour prendre la parole en public, pour donner des orientations par rapport à sa vie.
Vous deviez qualifier votre poésie, mettre des termes précis sur votre style d'écriture. Que diriez-vous et quels sont les sujets qui vous inspirent le plus?
C'est tellement difficile de parler de soi-même. Mais si je dois qualifier mes recueils de poèmes, je dirais que c'est une écriture engagée. Parce que j'aborde toutes les thématiques sociales qui parlent des injustices, de la déshumanisation, de l'exil, de la gouvernance, des multiples crises, des guerres, des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants, l'inceste. Mes recueils de poèmes abordent tout ce qui engendre les fléaux sociaux. Et j'aborde ces thématiques sans langue de bois, et je les dis de la manière féministe, de la manière engagée. En tout cas, c'est pour réveiller les consciences. Voilà, là vraiment, il y a une interpellation de la conscience de masse, il y a une interpellation de la conscience collective pour qu'on puisse changer la donne, pour que des changements de comportement puissent être opérés pour une société réconciliée.
Alexandrine Lao, alias Alexa Léone, pouvez-vous nous interpréter un de vos poèmes?
Avec plaisir, je vous interprète un de mes poèmes qui s'intitule Confrérie. Ils se sont coalisés pour nuire, avec mépris pour tout détruire, même anéantir le sourire jusqu'à son dernier soupir. Longtemps, ils ont combattu la joie, ne sachant pas que c'est de bon aloi. Leur arrogance, venimeuse du moins, les a désorientés des fois. On cavale tout après fin, l'homme, ce sacré venin, qui détruit dans les confins avec sa confrérie de mutins. Alexandrine Lao, poème écrit le 24 février 2024 à Bangui.
Alexandrine Lao, je voudrais lire votre poème « Soupir » du recueil « Identité fugace ». Prête-moi ta pensée pour la creuser et répandre la sève, ensemble, avec la mienne, sur les boulevards endeuillés de soupirs. Prête-moi tes yeux pour admirer avec les miens toute l'étendue du désastre humain que la folie de nos cœurs a engendré. Prête-moi tes bras pour porter ensemble avec les miens tous les fardeaux venimeux longeant les périmètres de nos sanctuaires dévastés. Prête-moi tes oreilles pour que nous écoutions ensemble les suppliques inaudibles qui déchirent le silence austère de nos indifférences. Prête-moi ta plume pour que j'écrive les initiales de tous les dénominateurs machiavéliques qui nous ont propulsés dans le chaos. Prête-moi tes souvenirs pour les exposer le long des avenues désertées, ensemble, avec tous les nôtres, pour commémorer nos errements d'antan. Prête-moi tes larmes pour que le ruissellement avec les miennes aseptise tous ces corridors dépravés de souillures macabres. Prête-moi tes pieds pour qu'avec les miens, nous allions vers les autres en brisant toutes les barrières identitaires et faire de la cohésion sociale un credo. Prête-moi ton sourire pour réparer les mélancolies roides qui ont terni nos visages et les illuminer de gaieté plurielle. Prête-moi ta voix pour qu'ensemble nous chantions l'hymne à l'humanisation pour bercer les consciences anesthésiées. C'était un poème d'Alexandrine Lao, extrait du recueil « Identité fugace ». Alexandrine Lao, vous êtes également dramaturge et actrice, alors parlez-nous de votre travail pour le théâtre, de ce qui vous plaît sur scène et dans la mise en scène.
Quand j'étais encore jeune fille au lycée, j'avais interprété dans La dure épreuve écrite par l'abbé Basile Siango, où je jouais le rôle d'une épouse française rentrée avec son mari africain en Centrafrique, où elle a été maltraitée par la belle famille. Et lorsque j'avais envoyé mon synopsis pour le chantier panafricain d'écriture dramatique des femmes à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, arrivé là-bas, le synopsis a été retenu, ça tapait l'œil des jurés. J'ai été retenue pour prendre part à la formation des femmes littéraires. Arrivé sur place là-bas, il était question de didascalie, de dialogue. Donc, je voulais écrire un roman par rapport à une jeune fille qui était étudiante. Elle venait chez sa grande sœur. Et arrivé dans la concession, la grande sœur ne savait pas que sa petite sœur était là. Elle était maltraitée par son mari. Et la petite sœur était cachée dans un coin. Elle suivait la scène. Et quand le mari était sorti, il a démarré sa voiture en trombe, il était parti. La jeune fille demande à sa grande sœur, ah bon, c'est ça le mariage? Et voilà, il a vraiment fait un récital pour dénoncer comment la femme est maltraitée dans la société, comment la femme n'a pas de voix. Le départ, c'était pour une nouvelle. Et puis voilà, ça s'est transformé en pièce de théâtre et j'ai renommé « Le soleil se lèvera pour la femme ». C'est un plaisir vraiment de voir que la petite idée germée dans la tête de l'écrivain et voir les comédiens, les comédiennes sur scène en train de jouer. C'est quelque chose qui est vraiment fascinant. Et quand j'avais écrit cette pièce, ça a été joué en Côte d'Ivoire. Et arrivé ici en Centrafrique, j'ai pris goût pour écrire les pièces de théâtre. J'ai j'ai écrit Médiocrate, qui traite de la médiocratie dans la société et comment ceux qui méritent une place administrative sont relégués au second plan pour donner ainsi les cousins, les neveux. Voilà, les nominations se font parce que c'est clanique. Donc, dans Médiocrate, voilà, c'est ce jeune-là qui est bourré de diplômes. Et puis voilà, on lui demande les sous pour qu'il soit recruté, pour qu'il soit intégré. C'est une pièce de théâtre de dénonciation des injustices sociales. Jusque là, j'ai 10 pièces de théâtre. Et le dernier en date, c'est Le fauteuil du roi. L'aventure continue. Encore plein de choses, plein d'idées qui fulminent dans ma tête. Et puis j'écris. Et partout où je passe, il y a un stylo, il y a une feuille, il y a un calepin. Je commence à écrire et puis voilà, ça prend forme. Et Le fauteuil du roi, ça a été écrit en 48 heures.
Sandrine Lao, l'artiste pluriel que vous représentez fait que vous êtes également conteuse. Est-ce que cette tradition culturelle est encore pratiquée ou est-ce qu'elle risque de disparaître selon vous?
Je crois que le conte ne va pas disparaître de sitôt de chez nous. Il y a un très grand festival international de contes et de l'oralité chaque année chez nous en Centrafrique, organisé par le directeur de CREA, le Cercle de recherche et d'éducation par les arts, dirigé par M. Gervais Lacosso. Et chaque année, il y a des pépites de conteurs et de conteuses qui sont primées parce qu'on organise un concours de contes à chaque édition où des enfants de 6 ans à 18 ans viennent conter. Et il y a le jury qui est là, note les enfants sur leur manière de se tenir sur scène, leur éloquence, leur thématique et leur gestuelle. Chaque année, les enfants sont primés. Et la prochaine édition, les enfants qui sont primés, les enfants qui ont été retenus dans l'édition précédente, viennent faire les contes avec les adultes que nous sommes. Et je dirais que le conte a un très bel avenir chez nous. Un très bel avenir. Parce que les valeurs culturelles, les valeurs sociales ne doivent pas être foulées aux pieds. D'où la nécessité du conte pour faire prendre conscience aux jeunes dès le bas âge de la manière de se comporter dans la société. La politesse, le respect, la magnanimité, la courtoisie, le bon sens, c'est des choses interprétées dans les contes pour des modèles de comportement.
Domaine artistique, vous pratiquez le stylisme de mode. Là aussi, si vous deviez nous décrire vos réalisations dans la couture, que diriez-vous?
La question sur le stylisme, sur la mode, me renvoie à des années en arrière, quand j'étais encore une adolescente. Les tenues confectionnées, achetées par mes parents. Et moi, je m'enfermais seule dans la chambre pour découdre et refaire les modèles. Je cousais pour mes soeurs, je cousais moi-même des bustiers, tout ça. Mais au départ, on ne me comprenait pas, on me battait. Et je suis une artiste née. Hein. Mais c'est mon père qui me comprenait un peu, mais ma mère, vraiment, elle a faisait toute une histoire et voilà. Et j'ai fait pas mal de créations et j'avais mon local situé sur l'angle de rue. Ça a été détruit lors des crises. J'ai perdu la maison, j'ai perdu des machines et puis voilà. Et je fais pas mal de créations. Je fais des ensembles, des accessoires pour les mariés, les femmes qui vont aux fiançailles, pour les dots, tout ça. Je fais des ensembles jupes, je fais des belles robes, je fais des sacs, je fais des patchwork comme draps de lit, des jolis poissons pour les tables basses, plein de choses. Je fais des maillots de bain aussi, tout ça. Pas mal de choses. Et là, j'habille mes filles parce que j'ai 4 filles et c'est elles que j'habille. Et puis voilà quoi. Et elles me ramènent leurs amis qui je confectionne. Et puis les parents, quand il y a les grandes cérémonies dans la famille, voilà, je crée les choses. Et puis voilà. Avant, à l'Alliance française de Bangui, avant les crises, on organisait les marchés de Noël. Et quand je fais mes créations, les femmes des expatriés, ils achetaient pas mal de choses. Et puis je me faisais de l'argent. Et là, après les crises, mais ça revient tout doucement. Mais on n'a pas la même clientèle. Si on fait les créations de stylisme, mais on ne regarde pas de la même manière comme à une époque où les gens venaient acheter tout ça. Voilà. Je fais des combinaisons de pantalons, je fais des belles robes pour les filles, des chemises pour hommes, tout ça. Et je suis très satisfaite du résultat. Et là, je suis en train d'organiser, si je me prête vie, un grand défilé de mode.
Vous avez été nommé membre du Haut Conseil de communication de transition pour la culture par l'ancienne présidente de transition en 2014, Catherine Samba-Panza. Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Le Haut Conseil, c'est un organe de régulation des médias, de la musique. Et voilà, le Haut Conseil a lu sur les journaux quotidiens, les hebdomadaires, par rapport aux messages qu'ils véhiculent, pour voir s'il y a des messages de haine, s'il y a des rumeurs. Parce que le pays a traversé des crises, donc il ne faudrait pas que les journaux de la place puissent publier des messages d'incitation à la haine, d'incitation à la violence par rapport aux rumeurs. Après publication, chaque maison d'édition des journaux doit envoyer 10 exemplaires de leur publication. Les journaux publiés, les journaux édités par jour doivent parvenir au conseil de la communication, au service du monitoring, aux vérifications. Parce que des fois, ils amènent les brouillons et les vérifications faites, ils mettent d'autres informations et le Haut Conseil de la communication vérifie tout ça pour réguler. Et aussi les vidéothèques qui publient dans les quartiers, qui véhiculent les films pornographiques accessibles aux jeunes, aux enfants, les mineurs. Tout ça, le Haut Conseil de la communication veille là-dessus. Mais ce n'est pas encore vraiment formel. Mais pendant nos assemblées générales, nous avons mentionné des cas de ce genre où les vidéothèques publient des films pornographiques accessibles aux jeunes, aux enfants, les mineurs. Et les musiques aussi qui sont contraires aux mœurs sont interdites de publication sur les ondes de la radio. Et quand j'étais membre du Haut Conseil de communication de transition à l'époque, j'avais initié à mes collègues pendant une assemblée générale pour interdire une musique sur nos radios. Et parce que c'est contraire aux mœurs, on ne peut pas publier. Et d'où le rôle du Haut Conseil de la communication pour réguler, pour qu'il y ait une bonne norme par rapport à la démocratie, par rapport à la sensibilité du pays suite aux crises, aux multiples crises qui l'ont secoué. Le pays sortait d'une crise et c'était la transition, dirigée par son Excellence Madame Catherine Samba-Panza. Nous avions travaillé sans relâche. Nous avons mis des outils en marche et c'était très difficile. Le service de monitoring était en mauvais état. L'ingénieur, à l'époque, il était tellement compétent et on a fait de notre mieux pour mieux faire les choses, pour sensibiliser, pour conscientiser la population centrafricaine, pour qu'il n'y ait plus de revers par rapport aux incitations à la haine, par rapport aux barrières identitaires. Et ça nous a valu cette élévation au grade de commandeur dans l'ordre du mérite centrafricain. Ce fut un sentiment de fierté, de grande joie, de reconnaissance nationale et familiale. Parce que c'était tellement émouvant, c'était passionnant de travailler pour son pays avec acharnement et pour en arriver là.
Vous avez participé à des projets sur l'éducation à la paix, le geste citoyen, la non-violence et l'approche participative. Vous avez donc joué un rôle particulier dans le retour à la paix en Centrafrique, c'est cela ?
Nathalie, je dirais, j'ai été active pour le retour de la paix dans mon pays. Parce qu'en juin 2014, j'étais invitée au marché de la poésie à Paris. Le bassin du Congo était à l'honneur. Mes pères poètes m'ont dit, Alexandrine, écoute, par rapport à la crise vécue en Centrafrique, j'ai tant par rapport à tes écrits de relancer quelque chose sur la paix. Et j'ai commencé à travailler ce projet avec Aïs Boganda, la fille de feu Barthélémy Boganda, qui m'a invité chez elle à Paris, où j'ai séjourné 7 jours chez elle. On a travaillé nuit et jour pour mettre en place Tombola Tissirie. Arrivé ici une semaine après, j'étais membre du Haut Conseil de la communication chargé des arts, de la culture et de la protection de l'enfance et de l'adolescence. J'ai été invité par Catholic Relief Service, qui est une ONG internationale qui est axée sur l'éducation à la paix, à la citoyenneté, aux réflexes non violents. Et j'ai soumis mon projet au formateur qui est un Camerounais, un autre qui est américain. Et ils m'ont aidé dans le processus de la mise en œuvre. C'est comme ça, en juin 2015, j'ai initié Tombola Tissirie, où il était question d'outiller les artistes pour avoir le réflexe non violent. On était au kilomètre 5, la zone rouge, et on a œuvré. Et j'ai écrit des poèmes là-dessus. Et voilà, aujourd'hui, ceux des kilomètres 5 viennent là où eux ne pouvaient pas venir hier. Et nous aussi, on va là où on ne pouvait pas aller hier. Et tout ça, c'est le processus de la réconciliation, c'est le processus du vivre ensemble pour briser les barrières identitaires, pour faire un pas vers l'autre. Et j'ai des poèmes là-dessus. Et voilà, j'ai fait pour les enfants, pour les adolescents, j'ai fait pour ma famille, pour mon pays. Et cette approche participative a fait en sorte que chacun est venu avec des témoignages. Et ce sont ces témoignages-là qui ont fait en sorte que les gens se sont reconnus dans les faits. Pourquoi ces faits? Pourquoi ces tueries? Pourquoi ces violences? Pourquoi ces barrières identitaires? Et voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est le réflexe non violent. Je me regarde en toi et tu te regardes en moi et on fait les pas ensemble, on se tient la main, on rit, on regarde le ciel, on regarde la mer, on regarde l'univers et on sait que c'est l'humanisation plurielle.
Sandrine Lao, comment se traduit votre féminisme, ou plutôt votre féminitude, comme vous aimez à le dire ?
Je ne pourrai jamais rester insensible face aux aléas de la vie que traverse la femme. Nous qui avons un peu le contenu dans nos manèges, on peut contourner les méfaits sociaux injectés contre notre personne. Mais celles qui sont dans les arrière-pays, celles qui sont reléguées au second plan, nous avons besoin de plus de filles à l'école. Nous avons besoin de plus de filles à l'université. On parle de parité, mais de quelle parité parlons-nous? Même dans les pays développés, la femme n'est pas élue parce qu'elle est femme. La bataille va continuer. Nous n'allons pas nous arrêter ici. On dit non. On dit non pour que la femme ne soit plus considérée comme des outils de guerre, comme des effets des crises. La femme soit violée, on dit non. Que la femme soit considérée comme le plan de carrière d'un homme, on dit non. Que la femme soit reléguée au second plan, on dit non. Que la femme doit être classée dans les oubliés des priorités, on dit non. Un peu de respect pour la femme, un peu de considération à travers cette personne-là. Et on dira aussi stop, une femme ne doit plus mourir sur les tables de l'accouchement pour donner la vie. Il faudrait que des mesures adéquates soient prises. Ici chez nous, au mois de janvier-février 2025, plusieurs jeunes femmes sont mortes en couche. Nous sommes épuisés de parler, mais nous ne serons pas épuisés, nous ne serons pas las, nous n'allons pas nous lasser de parler. Nous allons toujours décrier les irrégularités, les monstruosités qu'on fait vivre à la femme. La femme, elle est née pour connaître le succès, le développement social. Là où elle est.
Alexandrine Lao, poétesse, dramaturge, secrétaire générale de l'Association des écrivains centrafricains, merci beaucoup pour cet agréable moment.
Merci beaucoup, Nathalie, pour cette belle opportunité.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.